Lyotard vous reprend ici la définition, la haute définition de l'article 2 de la Convention de 1973, qui en substance est un peu un développement de tout ce que je viens de vous dire ici. Mais j'ai découvert, c'est assez amusant, en venant tout à l'heure ici en train, je regardais un petit peu ce que Wikipédia disait sur l'apartheid, j'avais tapé apartheid et Palestine. Moi je suis un fan de Wikipédia, hein, je n'ai aucune honte à nous dire, hein, de là que je corrige moi-même de temps en temps les rubriques de Wikipédia, donc je trouve que Wikipédia c'est une très bonne source finalement. Même s'il fut un temps où c'était considéré, c'était très mal vu de se référer à Wikipédia. Alors ce que j'ai découvert, c'est assez amusant, c'est qu'en 1961, aux Nations Unies, au moment où l'on vote une résolution condamnant l'apartheid sud-africain, Israël faisait partie, et c'est ça qui avait voté en faveur de cette résolution. Et alors, Hendrik Verwoerd, qui était à l'époque le premier ministre d'Afrique du Sud, il est si piquant de noter qu'il a déclaré à cette occasion qu'Israël manquait singulièrement de cohérence, car finalement, en privant les Arabes d'une terre où ils vivaient depuis 1000 ans, Israël était, comme l'Afrique du Sud, un état d'apartheid. Voilà, hein, c'est une source que j'ai trouvée, je vous ai dit, dans l'indication, sur Wikipédia, je trouve ça amusant, et donc je voulais que ça puisse éviter d'être rapide. Alors maintenant, passons un peu plus concrètement, si vous voulez, au fait que l'on puisse qualifier les politiques israéliennes d'apartheid sans se faire agonir d'injures par les sionistes de tout poil, et ils sont nombreux à s'insurger quand on parle d'apartheid en Israël. Hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Ouvrir une parenthèse, au fond, sur la politique, entre guillemets, judiciaire, je peux la faire ainsi, ou juridictionnelle, si vous préférez, des animateurs, ou je voudrais plutôt dire des coordinateurs, du grand coordinateur des sessions actuelles du tribunal recette sur la Palestine, Pierre Galland. Parce que Pierre Galland, il a diligence de centrer ces sessions non pas tellement sur les violations du droit international commises par Israël, qui sont presque devenues aujourd'hui des banalités, hein, des lieux communs, mais sur les complicités, entre guillemets, hein, je ne prétends pas nécessairement utiliser ce terme au sens juridique du terme, encore qu'il est parfaitement adapté, en tout cas sur l'assistance, la contribution que toute une série d'instances apporte à Israël. Et c'est ainsi que la première session, c'était l'Union européenne. La deuxième, c'était les entreprises privées. La troisième, c'était... alors là, c'était pas tellement une complicité, c'était plutôt une qualification nouvelle à laquelle peut-être l'opinion publique n'était pas habituée, cette qualification d'apartheid. La troisième, la quatrième plutôt maintenant, celle de New York, relative à, de nouveau à l'assistance des Nations Unies d'un côté, des États-Unis de l'autre, dans ces politiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement original et intelligent de la part de Pierre Galland que d'avoir songé à centrer en quelque sorte le militantisme de son action beaucoup moins sur Israël que sur toutes les instances qui apportent leur contribution, leur aide, pour montrer que finalement ces instances elles-mêmes deviennent en quelque sorte co-auteurs, co-responsables, complices des faits qui sont reprochés à Israël. Je pense que c'est quelque chose sur lequel, auquel moi personnellement je suis extrêmement sensible. Je l'ai dit moi personnellement parce qu'en tant que juriste, tout au début, quand j'ai préparé la première session sur l'assistance de l'Union européenne à Israël, finalement, en tant que juriste pur et dur que je prétends être, que j'essaie d'être, je me suis rendu compte que ce n'était pas si évident que cela. Et qu'il y avait en fait pas mal d'éléments, pas mal d'obstacles qu'il fallait franchir, que c'est pas toujours évident, si vous avez, tout le monde ici a déjà été confronté un jour ou l'autre au problème de l'application des règles de droit, et on se rend compte qu'au fond, la règle de droit est souvent quelque chose d'extrêmement fruste, d'extrêmement primaire, pour s'attacher, pour s'appliquer à des comportements qui très souvent échappent à ce que le législateur a voulu dire. Et donc il faut faire preuve parfois d'un peu d'imagination, ou d'une certaine créativité, d'une certaine inventivité, pour montrer que le comportement X ou Y tombe bel et bien sous le coup de la règle de droit. Comme vous savez, la règle de droit, c'est un peu comme une balle perdue, hein, on ne sait pas très bien qui a tiré, on ne sait pas très bien qui sera touché, et ça fait la même chose pour une règle de droit. Mais voilà, il est toujours possible qu'il y ait des victimes inattendues, et en l'occurrence, ici, la victime, si je puis dire, c'est Israël. Alors, les différents aspects, à présent, de l'apartheid, j'y reviens. Si on prend de nouveau l'article 2 de la Convention de 1973, eh bien, c'est notamment ôter la vie à des membres d'un groupe racial, donc, en quelque sorte, le meurtre de membres d'un groupe racial. Comment ça, hein, je rappelle, racial ne doit pas être pris dans un sens biologique, mais dans un sens sociologique. Hein, ça vise tout groupe qui se distingue par son appartenance ethnique ou nationale, notamment, aussi les groupes qui se distinguent par des caractères physiques, mais indépendamment de cela, c'est aussi des groupes qui se distinguent, je répète, par leur origine nationale ou ethnique, et donc ça veut parfaitement concerner le cas de la Palestine. Or, en l'occurrence, si on prend les différentes opérations militaires menées par Israël contre les Palestiniens, bon, mais c'est pas, je pense, aux militants qui se trouvent ici devant moi que je vais l'apprendre, hein, et bien, il y a un grand nombre de victimes palestinienne, et là j'ai toute une série de chiffres qui sont évidemment extrêmement éloquents. Le dernier chiffre, pour ne pas vous abrutir de nombre, c'est celui que je puise chez l'association israélienne Teslem, qui dit qu'entre 2000 et 2010, qui dit qu'entre 2000 et 2010, 6418 Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ceci nous montre déjà, si vous voulez, un premier aspect, c'est qu'au fond, ces homicides, ce sont quand même des homicides qui sont tous dirigés contre des gens qui appartiennent à un peuple, qui s'identifie par son origine nationale ou ethnique, comme vous voulez, et dans cette mesure-là, on peut donc bel et bien dire que nous sommes là en présence de faits qui rentrent dans le champ d'application de la notion d'apartheid. Deuxième cas, le fait d'arrêter arbitrairement, je suis toujours dans l'article 2 de cette convention, que je déplace un petit peu, comme le ferait un chirurgien, arrêter arbitrairement et emprisonner illégalement des membres du groupe en question, du groupe entre guillemets racial. Eh bien, si on prend les détentions administratives dont Israël est coutumier, détentions administratives de plus de 6 mois, sans inculpation, sans jugement, et qui sont limitées aux seuls Palestiniens, il est clair que nous avons de nouveau ici une forme de comportement qui est dirigé vers un groupe en tant que tel, et qui par conséquent entre parfaitement dans le sens, dans la notion de ségrégation et de discrimination raciale. Troisième exemple, les mesures législatives qui sont destinées à empêcher un groupe racial de participer non seulement à la vie politique et sociale, mais aussi économique et culturelle du pays. Alors un exemple que je voudrais prendre ici, qui a été relevé d'ailleurs lors de cette troisième session du tribunal Rossel, prenons la loi sur le service militaire ou le service national. La loi sur le service militaire en Israël permet à des ex-militaires israéliens d'obtenir des droits spéciaux en matière de logement, en matière d'emploi, en matière d'accès à l'instruction supérieure, avec des minervales réduits pour les écoles ou les universités. Et ces droits sont systématiquement refusés aux Palestiniens parce qu'ils ne sont pas appelés à faire leur service militaire. Parfois, on en prend l'un ou l'autre pour faire, en quelque sorte, pour la galerie, mais en réalité il n'y a pas un appel systématique, et dès lors qu'ils ne sont pas appelés à faire leur service militaire dans les forces de l'armée israélienne, ils sont systématiquement exclus de ces avantages qui sont réservés à d'anciens militaires israéliens. Quatrième exemple de mesure qui peut apparaître comme une forme d'apartheid, c'est le fait de prendre des mesures législatives ou autres destinées à empêcher un groupe racial de jouir des droits et libertés fondamentaux. Or, il faudrait tout de suite vous dire que c'est vrai que ce qu'on appelle l'apartheid israélien, c'est pas du tout identique, ça ne revêt pas les formes grossières de l'apartheid sud-africain tel qu'on le connaît, hein, ce qu'on appelait le petit apartheid, hein, les bus, les plages, les bancs qui sont interdits aux noirs, ils sont permis seulement aux blancs. Non, ça, il n'y a pas ça en Israël, c'est plus subtil quand même. Mais c'est la même chose, par exemple, si on prend l'interdiction faite aux écoles d'enseigner la littérature palestinienne, ou d'utiliser des livres importés du Liban ou de Syrie. Si on prend la loi sur la citoyenneté, en Israël interdit la réunification des familles dont l'un des conjoints a la nationalité d'un État ennemi. Donc, autrement dit, si le conjoint est de nationalité iranienne, irakienne, syrienne ou libanaise, ce sont des États réputés ennemis, pour Israël, eh bien, c'est les couples ne peuvent pas être réunis en Israël à cause de cette loi. C'est de nouveau une forme d'atteinte qui est basée essentiellement sur l'appartenance à un groupe dit racial, et vous voyez là aussi évidemment une forme d'apartheid. Dernier exemple encore que je voudrais prendre, toujours notre pas dernier, et là il y en a tellement, très récemment j'étais... Je n'ai pas oublié de raconter cette anecdote. J'avais été invité par le European Jewish Parliament, qui est un chien hyper sioniste, à venir parler sur la notion anti-sionisme égale antisémitisme. Alors, absolument incendiaire en disant oui, ce sont des gens comme vous, Eric David et votre maître Jean Salmon, qui inculquaient, qui distillaient l'antisémitisme à l'université en prenant toujours comme exemple de violation du droit international Israël. Et c'est vrai que Israël, c'est vraiment, c'est merveilleux. Pour le prof que je suis, on a fait en arabe. Tout récemment encore, je regardais, je calculais qu'il y a à peu près une centaine de résolutions du Conseil de sécurité qui sont systématiquement ignorées par Israël. Il y a déjà il y a à peu près une centaine de fois que le Conseil de sécurité rappelle qu'Israël doit appliquer la fameuse résolution 242 qui l'oblige à... qui l'oblige à se retirer des territoires occupés, là c'était répété à peu près une centaine de fois. J'ai calculé, c'est facile à faire. Israël s'en fiche comme une pierre et du quart. Et donc, c'est vrai que le prof a naturellement tendance à choisir ces exemples qui sont évidemment on ne peut plus parlants et qui font que c'est vrai qu'Israël est un peu systématiquement le bouc émissaire, c'est le cas de dire en l'occurrence. Mais voilà, c'est une réalité. Et il n'y a pas de raison, évidemment, de l'ignorer. Alors, ce que je veux encore vous dire, donc, c'est que toujours dans le cadre des différents faits qui sont constitutifs des crimes d'apartheid, il y a notamment la privation de droits économiques, sociaux, culturels, tels que le droit au travail, droit à l'éducation, droit de quitter son pays, d'y revenir, etc. Alors, parmi les exemples qui illustrent cela, je voudrais prendre le cas de l'eau. Il faut savoir que seulement 2,5% de l'eau qui est consacrée à l'agriculture en Israël, donc sur l'ensemble de cette eau qui est consacrée à l'agriculture en Israël, seulement 2,5% est laissée à l'agriculture des populations arabes vivantes en Israël. Par ailleurs, la population arabe, dans les différents lieux où elle est concentrée, ne reçoit quasiment aucun équipement d'infrastructure en termes de routes, en termes d'adduction d'eau pour son agriculture, et tout ça, et c'est donc évidemment des cas manifestes de ségrégation raciale. Article 2, toujours de cette convention, un autre cas d'apartheid, c'est prendre des mesures visant à diviser la population selon les critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial et en expropriant les biens appartenant à un tel groupe. Et bien voilà, si on regarde un certain nombre de lois israéliennes, il y a des lois qui ont abouti à placer notamment une loi de 1950 qui plaçait les immeubles des personnes absentes sous le contrôle d'Israël, ce qui aboutissait à peu près à ce qu'Israël s'approprie 4 450 km² de terrain. La loi sur le Fonds national juif de 2007 dispose que les biens immobiliers qui sont détenus par ce fonds ne peuvent être attribués qu'à des juifs. Et depuis 1948, on estime qu'Israël a confisqué 83% des terres appartenant à des Palestiniens. Donc évidemment, tout cela montre de nouveau des phénomènes de ségrégation raciale qui attestent du caractère d'apartheid des politiques et pratiques israéliennes. Alors, on pourrait poursuivre cette énumération, mais je ne veux pas le faire davantage, je ne suis pas seul à parler ce soir. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce que je vous ai dit ici, ce n'est pas des situations qui sont limitées au territoire occupé, c'est-à-dire au territoire qui se trouve, soit enfin, qui est Gaza jadis, encore qu'une partie de Gaza reste, entre guillemets, occupée, puisque, comme vous le savez, Gaza n'a pas la souveraineté sur son espace aérien et sur son espace maritime, et que de même, à peu près 35% des terres cultivables à Gaza sont en réalité une zone tampon dans laquelle il est interdit de pénétrer sous peine d'être fait l'objet d'un tir à vue de la part des gardes frontières israéliens. Donc ceci dit qu'il y a toujours une forme d'occupation de Gaza, pardon.
C'est automatisé.
Les tirs, ils ont des technologies, oui, c'est ça, les robots, exactement. Parce que je l'ignorais. Ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les constatations qui ont été faites par le tribunal Russell sur la Palestine, on pourrait croire qu'il nous faut un groupe de militants, de gauchistes exaltés, hein, comme chacun d'entre nous ici, je suppose, hein, mais pas du tout, parce qu'on se rend compte, finalement, ce qui est important, c'est que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l'enfant, le Comité contre la torture, le Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, tous ces comités qui sont composés de représentants des différents États, selon les principes classiques aux Nations Unies de la représentation géographique équitable, aboutissent tous aux mêmes constatations concernant ces phénomènes de ségrégation, de discrimination qui sont pratiqués par Israël et qui montrent donc que le tribunal de Russell n'est pas seulement un groupe de doux rêveurs. Voilà, je vous remercie.